affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il y a très exactement un an, la France, quelque peu interloquée, voyait ses ronds-points se colorer de jaune. Commencé comme une fronde d'automobilistes, un mouvement social de près d'un an venait de naître, prenant de court la quasi-totalité des observateurs et des décideurs. Les politiques, bien sûr, les partis, les journalistes et même les syndicats. Preuve du désarroi provoqué par ce mouvement, on le disait inédit, tout en recourant, pour le décrire, à un vocabulaire issu du passé, parfois du passé le plus lointain, jacquerie, fronde, factieux, poujadiste, ligueur. Alors que l'élection d'Emmanuel Macron avait été interprétée comme l'entrée dans un nouveau monde, l'ancien monde se rappelait à notre bon souvenir. Un monde plus tragique, un monde de lutte, un monde de rapport de force. Un monde où les groupes sociaux redécouvrent leurs intérêts propres et leurs antagonismes. Ce monde, c'est peut-être tout simplement celui de l'histoire. C'est en tout cas celui décrit dans « L'histoire populaire de la France » de Gérard Noiriel, un ouvrage paru quelques semaines avant cette crise des Gilets jaunes, mais qui peut certainement contribuer à mieux le comprendre, l'interpréter, et peut-être même, qui sait, à imaginer quelques voies pour sortir par le haut de cette crise. Cet ouvrage a été distingué par l'Académie française, et c'est la raison pour laquelle nous avons la possibilité, la chance et l'honneur de recevoir M. Noiriel dans notre studio. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Tout mouvement social a une histoire, mais tout livre a aussi une histoire. Pouvez-vous nous parler de la genèse de celui-ci ?
Oui, bien, écoutez, effectivement, pour moi, c'est un livre qui représente aussi quelque part la somme d'une carrière d'historien, puisque je suis arrivé dans la dernière ligne droite, je dirais, de ma vie professionnelle. Et j'ai voulu rassembler dans cet ouvrage, je dirais, près de 40 ans de recherche sur l'histoire contemporaine de la France. Non seulement de recherche personnelle, mais aussi collective, parce que moi je crois beaucoup que la recherche c'est une démarche collective. Et donc j'ai voulu aussi rendre hommage à mes collègues avec qui j'ai travaillé, et aussi à mes étudiants, voilà, qui souvent font des thèses formidables, qui ne trouvent pas d'éditeurs. Donc c'était aussi pour moi une occasion de donner un peu de visibilité à leurs travaux. L'autre aspect, c'est effectivement la volonté de remettre l'accent sur le populaire, parce que je trouve qu'on est dans une situation aujourd'hui, à la fois sur le plan, je dirais, politique, médiatique, mais même aussi intellectuel, où on voit une intensification des polémiques identitaires, alors que je pense que les réalités fondamentales dans nos sociétés, elles sont économiques et sociales, ce qui n'implique pas, évidemment, de ne pas tenir compte des autres dimensions, mais c'est celle-là que je voulais remettre en valeur. Et effectivement, comme vous l'avez dit, que c'était quelques semaines avant l'éclatement du mouvement des Gilets jaunes, qui a remis, c'est d'ailleurs le titre, j'avais fait un entretien qui était publié dans Le Monde, le titre qui avait été choisi par le journal, « Le retour de la question sociale ». Et ça, c'était un très beau titre, parce que c'est effectivement ce que je voulais dire.
Alors l'ouvrage est titré « Une histoire populaire de la France », mais enfin c'est un peu polysémique ce titre. Comment faut-il comprendre ce mot « populaire » ?
Mais si vous voulez, c'est dans un titre aussi simple, les trois mots posent problème. Histoire, moi je montre que l'histoire et la mémoire, c'est pas la même chose. France aussi, quand est-ce qu'on commence, jusqu'où on va, vous voyez, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis populaire, oui, c'est ça le plus problématique, parce que c'est un terme polysémique. Donc moi je me situe dans le prolongement, je dirais, de l'histoire populaire des États-Unis, de Ward Zinn, qui est un ouvrage qui a eu un grand succès mondial, on pourrait dire, et qui a été traduit en France par cet éditeur, Agone, qui est un petit éditeur de Marseille, qui donc m'avait demandé, donc il y a une dizaine d'années, j'ai mis 10 ans pour l'écrire, mais avec des moments d'interruption, qui m'avait demandé donc de faire l'équivalent pour la France. Donc le mot populaire, il signale que je m'adresse aussi à un public qui dépasse le cercle des spécialistes. C'était le, voilà, ce qu'avait réussi à faire Howard Zinn. Donc ça implique un certain nombre de sacrifices. Par exemple, il n'y a pas de notes de bas de page, hein, alors que souvent dans les ouvrages savants, c'est ce qui est normal, hein, on met des notes de bas de page pour donner les références, etc. J'ai donné une forte bibliographie, mais voilà. Puis j'ai essayé d'adopter le style du récit pour donner envie aussi aux gens de le lire. Mais populaire, c'est aussi dans la définition même de l'objet. Alors je dis moi-même, et c'est là que je m'écarte un peu peut-être d'Howard Zinn, que ce n'est pas une histoire des classes populaires. C'est une histoire du populaire parce que pour moi, le populaire, c'est une relation. C'est le mot peuple, si vous voulez. Peuple au sens politique du terme. Le peuple français, ben, c'est l'ensemble des citoyens français. Et donc moi, j'ai traduit ça dans mon langage de socio-historien, parce que j'ai une double formation d'historien et de sociologue.
Oui, il faudra nous expliquer ce que c'est que la socio-histoire.
Voilà, oui.
Je un peu plus tard, je voulais continuer.
Voilà. Et donc, de façon à, effectivement, donc, ben voilà, je montre dans le livre que tout ce qui se passe, même dans une nation, on reviendra peut-être aussi sur ce terme, eh bien c'est le produit de relations sociales. De relations où il y en a qui occupent des positions dominantes et d'autres des positions dominées, mais que parfois eh bien, ceux d'en bas, comme on dit, peuvent contribuer à faire évoluer ceux d'en haut. Et je prends le fameux exemple, et là je suis bien placé pour en parler, de Victor Hugo et de son discours à l'Académie française en 1841, où Victor Hugo, dans son discours, lui-même qui était quelqu'un d'un humaniste, mais qui appartenait au monde des élites, bon, parle de populace, ce mot populace. Et là, vous voyez le petit écho qu'on peut faire aux gilets jaunes, c'est-à-dire c'est un terme que les ouvriers de l'époque prennent, et qui est objectivement très péjoratif, hein, ce terme de populace. Et donc on a un écrivain ouvrier, vous savez, nous sommes sous la monarchie de Juillet, où on voit apparaître des journaux ouvriers, et donc l'un d'entre eux, qui est menuisier, qui s'appelle Jacques Vinçart, qui a créé une revue qui s'appelle La Ruche Populaire, écrit à Victor Hugo en lui disant « on s'est senti offensé par ce terme » de populace. Et Victor Hugo, j'ai repris ça à Louis Chevalier, le classe laborieuse, classe dangereuse, un historien donc très, très connu, qui analyse tout ça, et il montre comment Hugo, finalement, va être tracassé par ça. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et c'est justement les réalités de la société française. Et du coup, comme Hugo était un génie, je dirais quelque part, ça le travaille. Et ça va contribuer à modifier l'écriture des Misérables. Hein. Et donc, le mot peuple, qui avait une connotation péjorative au départ, progressivement, alors il y a la révolution de 48, etc., mais progressivement va avoir une connotation beaucoup plus positive. Et là, je dis, vous voyez, on a un exemple typique. Quand le peuple, au sens classe populaire, prend la parole, il y a des effets, y compris sur les élites. C'est ça la démocratie, au fond. C'est pouvoir évoluer, faire évoluer les gens grâce à ces parfois, ces conflits, ces polémiques, ces luttes sociales.
C'est ce qu'on appelle la dialectique, avant, non ?
Voilà, c'est ce mot qu'on n'ose plus trop employer aujourd'hui, parce que même les jeunes ne se voient plus d'où il vient. Il vient de Hegel au départ, mais moi je le prends dans un sens marxiste. Vous voyez. La lutte des classes, c'est-à-dire la lutte des contraires, c'est le moteur de l'histoire. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre.
Oui, c'est l'antagonisme qui permet le dynamisme commun.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Hein, dans nos sociétés, même parfois quand elles s'expriment sous des formes qu'on peut trouver inadmissibles, etc. Mais dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça qui s'est produit, au fond, si vous voulez. Vous avez un mouvement social qui va exploser, qui prend des formes extrêmement différentes, parfois répréhensibles, mais qui veut dire quelque chose. Et on a intérêt à être à l'écoute de ces mouvements-là si on veut faire progresser notre société.
Donc, si je comprends bien, votre histoire populaire de la France est aussi une histoire qui vise à montrer que le peuple n'est pas simplement objet, mais acteur de l'histoire. Vous lui restituez sa place dans la marge globale de la société.
Ah bah ça, c'est oui, c'est fondamental. Et je l'ai écrit, vous savez, au moment des élections. Enfin, j'ai achevé l'écriture au moment des élections de 2017 présidentielles. Et j'avais lu très en détail le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Je l'ai lu comme un document historique. Ce qui m'avait frappé, c'est quand même que les classes populaires étaient absentes de sa réflexion, et ce qui était quand même problématique du point de vue politique, parce que un président de la République, il représente l'ensemble du peuple français, et là aussi, c'était un peu prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ce sentiment de ne pas exister, d'être méprisé, etc., est apparu à ce moment-là, et je crois qu'il y a, oui, que, je dirais globalement, c'est pas une personne, mais globalement, comme on dit, les élites ont intérêt aussi parfois à s'interroger sur elles-mêmes, parce que leur regard n'est pas objectif, neutre, il est aussi marqué par leur propre histoire et leur propre milieu social.
Alors cette invisibilité du peuple, elle n'est pas seulement dans l'arène politique. Longtemps, racontant l'histoire elle-même et la façon dont on l'écrivait, le laissait largement de côté. En tout cas, ne le considérait pas comme acteur des événements. Oui. Dans quel mouvement va... l'évolution de la façon de faire l'histoire, votre ouvrage s'insère-t-il ? On a parlé de l'histoire sociale, on a parlé de l'histoire populaire, vous venez d'expliquer que vous en démarquiez. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu le rapport ?
Oui, alors, ce qu'on constate au point de vue de l'historiographie, c'est qu'effectivement, l'histoire s'enrichit quand, je dirais, l'accès aux professions, enfin aux métiers universitaires, se démocratise. Ça a été, si vous voulez, au XIXe siècle, eh bien, l'histoire était faite par l'aristocratie ou la bourgeoisie, voilà, des hommes uniquement. Voilà. Et petit à petit, on a eu une diversification et donc les thèmes aussi se sont diversifiés. C'est comme ça, quand on a eu des gens qui étaient eux-mêmes issus de milieux populaires, on a eu une orientation de l'histoire vers l'histoire sociale. Ça commence à la fin du XIXe siècle, ça se développe ensuite. Mais c'est pareil, on pourrait dire, pour l'histoire des femmes, par exemple, qui a vraiment commencé quand on a eu des femmes à l'université. Donc, il y a cette dimension-là que je trouve très importante. Et je ne cacherai pas que, pour moi, mon intérêt pour l'histoire populaire vient aussi du fait que moi-même, je suis issu d'un milieu populaire, disons. Donc, ça a toujours été un souci pour moi de faire la place qui revient, je dirais, aux classes populaires, parce que c'est encore un enjeu. Donc ça a été effectivement... Alors, je m'inscris, moi, fondamentalement dans la tradition des annales, comme on dit, mais je dirais peut-être des premières annales, voyez, parce qu'il y a toute une histoire de ce courant de recherche. Vous savez, c'est la revue fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre. Moi, je dirais que l'historien pour lequel j'ai une immense admiration, c'est Marc Bloch. Moi, je me situe dans la filiation de Marc Bloch, y compris pour la manière de défendre l'autonomie de la recherche historique, le métier d'historien. Vous savez, c'est son dernier livre qu'il a écrit pendant la Résistance. Et donc, voilà, il y a cette dimension d'histoire sociale qui peut s'inscrire dans la longue durée, comme chez Marc Bloch, et économique aussi, économique et sociale, on dit. Les questions économiques, elles sont fondamentales. Mais disons que cette perspective-là, je l'ai enrichie après grâce à la sociologie.
La sociologie. Oui, à la fois historien et sociologue.
Et sociologue. Et donc, j'ai Durkheim, par exemple, m'a beaucoup marqué sur qu'est-ce que c'est qu'une nation, d'un point de vue sociologique. Max Weber, et puis, en dernier lieu, Pierre Bourdieu, puisque j'ai travaillé dans les premières années avec Pierre Bourdieu, peut-être pas dans le premier cercle, mais enfin, j'ai été marqué par sa sociologie, notamment sa conception de la culture, parce que jusque-là, ça a été quelque chose qui était un petit peu marginalisé. Et aussi, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est la réflexion sur les porte-paroles. Qui parle à la place des autres ? C'est mon côté un peu anarchiste, certainement. Mais voilà, et je me la pose à moi-même. C'est-à-dire, c'est pour ça que je tiens une distance par rapport au champ politique. C'est-à-dire, en tant que chercheur, voilà, moi, j'explique les réalités sociales, mais je ne parle pas au nom, même des causes que je peux soutenir en tant que citoyen. Je me garde de le faire en tant qu'historien. Vous voyez, je pense que on doit respecter des limites, que celle de notre métier, c'est justement d'expliquer et comprendre et non pas de juger. La mémoire, pour moi, ce qui fait la différence entre l'histoire et la mémoire, c'est ce que Marc Bloch a parlé de la manie du jugement. Vous voyez, c'est-à-dire, on est dans le mémoriel, on va faire des condamner des assassins, déplorer des victimes, etc. Bon, c'est normal dans la vie politique, mais pour moi, c'est pas ça la recherche historique.
Alors, deux termes qui reviennent souvent sous votre plume, socio-histoire, mais qui présentait comme une discipline spécifique, avec la volonté de la faire reconnaître, d'obtenir, j'imagine, des chaires d'enseignement, etc. D'une part, où en est-on et de quoi s'agit-il précisément ?
Alors, effectivement, la socio-histoire... vous savez, moi, j'ai travaillé pendant très longtemps à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, où j'animais, avec un collègue, Jean-Claude Chambourdon, qui était sociologue, on appelait un DEA de sciences sociales. Donc, je dirais aujourd'hui un master, si vous voulez. Donc, qui était interdisciplinaire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup creusé cette question de l'interdisciplinarité, à la fois sur le plan de la réflexion, mais aussi sur le plan pratique, avec mes étudiants, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Parce que l'interdisciplinarité, ça peut être une manière de... Quand on est spécialiste de rien, on se dit spécialiste de tout, vous voyez, c'est... Mais la vraie interdisciplinarité, celle qui fonctionne dans les sciences dures, disons, ben c'est quand vous avez deux ou trois au maximum spécialités qui se conjuguent réellement. hein, comme on dit, la biochimie, si vous voulez, voyez. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai plaidé, moi. Et donc, la socio-histoire, c'est, une sous-discipline, si on veut, qui est à la fois une sous-discipline de l'histoire, mais aussi de la sociologie, qui combine des compétences dans les deux domaines. Voilà. Donc, nous, on a formé aussi des gens. J'ai créé une revue avec des collègues qui s'appelle Genèse, Histoire et Sciences Sociales, qui est une des principales revues aujourd'hui en France de sciences sociales, qui a cette spécificité, je dirais, de combiner les deux disciplines, et moi-même dans mon travail, donc c'est ce que j'ai fait.
Alors, pour sortir de ces considérations plus techniques sur la façon dont on fait l'histoire, on l'étudie, dont on mène la recherche, il y a un sous-titre, votre livre, Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. De prime abord, ça étonne un petit peu, car la France existait peut-être quand même avant. En tout cas, le peuple existait avant. Il n'y avait pas là, spontanément, comme ça, au moment de la guerre de 100 ans. Donc, pourquoi retenir cette date et pas une autre?
Parce que, justement, là, si vous voulez, c'est des enjeux, évidemment, aussi historiques, mais aussi de mémoire, etc. Aucun historien sérieux ne reprendra à son compte le thème, le mythe, nos ancêtres les Gaulois. Vous savez, ces questions-là, aujourd'hui, quand même, on a dépassé ce niveau du mythe qu'on retrouvait chez Ernest Laviste, etc. Et donc, le problème est de savoir, qu'est-ce que c'est que la France, au fond? Donc, c'est là que vous avez des conceptions qui peuvent varier. Moi, en gros, je suis parti d'une définition qui est incontestable, c'est la définition juridique. Hein. C'est la France, à l'ONU, qu'est-ce que c'est, hein, l'Organisation des Nations Unies, c'est un État national, un État-nation. Donc, je suis parti de la guerre de Cent Ans, parce que c'est à la fin de la guerre de Cent Ans que l'État royal se fixe définitivement en France. À l'issue de la guerre. La guerre de Cent Ans, c'est encore un enjeu, etc. Et donc, je suis parti de là parce que c'est le moment où, par exemple, l'impôt royal s'impose définitivement. Et puis, donc, on a une armée, etc. Donc, on a, à partir de Charles VII, globalement, l'État royal n'est plus véritablement contesté. Et c'est l'une des grandes spécificités de la France, c'est-à-dire la continuité de l'État, malgré la Révolution française, hein, qui va comme ça perdurer jusqu'à nos jours. Donc ça me faisait... Mais on peut trouver... Moi, j'ai des collègues, je pense à Michel Zancarini-Fournel, qui avait écrit un livre, Des luttes et des rêves, avec un sous-titre Histoire populaire de la France. Elle commence un peu plus tard, elle commence au Code Noir en 1685, parce qu'elle voulait mettre l'accent. Voilà, c'est pas oui, la même perspective. Voilà, moi, ce n'est pas la même perspective. Je ne pense pas que l'histoire populaire de la France, la faire commencer au Code Noir, c'est déjà un peu provocateur, j'allais dire. Voilà.
Oui, mais ça met tout à fait en relief les tensions qui traversent aujourd'hui le monde historique par rapport à l'histoire populaire, mais bien au-delà, d'ailleurs.
Oui. Non, mais c'est sûr qu'il y a des... Alors, avec Michel, on est collègues, c'est pas des tensions, hein, c'est des points de vue un peu différents.
Mais pas des tensions personnelles, des tensions intellectuelles.
Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qui mérite d'être défini comme populaire et sur quoi on met l'accent. Mais comme moi, ma définition du populaire, vous voyez, c'est une relation entre des individus, je me suis dit l'État... parce que la question que je me suis posée, je me dis, quelle est la différence entre un peuple et une population? Une population, c'est des individus qui sont les uns à côté des autres, ils n'ont pas forcément de lien entre eux. Un peuple, c'est des gens qui ont un lien entre eux, même s'ils ne se connaissent pas. Et c'est l'État qui crée ce lien, c'est le droit. Vous voyez, des gens qui sont sur un même territoire, qui est contrôlé par l'État, donc l'État royal à l'époque, au départ, ce sont des sujets. Ils sont sujets du roi. Et puis la Révolution française va faire en sorte qu'après, ça deviendra des citoyens. Mais ce qu'on appelle la souveraineté, c'est un rapport de commandement, obéissance à l'État. Je veux dire, donc c'est pour ça que ça me paraissait un bon point de départ. Et puis, ce qui apparaît très vite aussi, c'est qu'à partir du moment où on dit État, on dit impôt. Et à partir du moment où on dit impôt, on dit lutte contre... On débouche sur lutte contre l'impôt. Donc, si vous voulez, là aussi, ça a été évidemment en résonance avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque la question de l'impôt, de l'injustice face à l'impôt, de l'augmentation des taxes, a été centrale dans ce mouvement. Donc voilà, je pouvais du coup faire le lien sur la longue durée à partir de différentes connexions qui débouchaient. À l'époque, le mouvement des Gilets jaunes n'était pas encore éclaté, mais comme par hasard, ce mouvement-là s'inscrit dans le prolongement de ce que je racontais.
J'ai lu quelques recensions de votre ouvrage pour voir la façon dont il avait été reçu. De fait, il y a évidemment beaucoup de recensions qui, qui souligne à juste titre tous les apports. Et j'en ai décoté quelques-unes où justement il vous est reproché de rester dans ce cadre, national. Comment interprétez-vous cette façon de vouloir s'extraire? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que dans l'ensemble de votre œuvre, d'ailleurs, pas seulement dans cette histoire populaire de la France, mais dans les ouvrages précédents, je pense notamment au Creuset français, il y a une volonté de le définir de façon positive, d'une part comme un fait, mais aussi de lui donner une coloration qui est celle peut-être du maintien du commun, justement.
Oui, mais si vous voulez, là, le problème, je connais bien ça, parce qu'effectivement, ça avait déjà été posé, ce type de débat dans le Creuset français, qui date de 1988, hein, je précise, où j'essayais d'expliquer que notre histoire de France, elle était fortement liée à l'histoire de l'immigration, puisque la France est un pays du monde où l'immigration a joué le plus grand rôle au XXe siècle. Et la question, si vous voulez, il faut bien séparer les choses, c'est-à-dire... Moi, je ne fais pas d'apologie ou de dénonciation, comme je le disais tout à l'heure. J'essaye d'expliquer des faits historiques et je prends le cadre national comme un objet d'étude. Voyez ? Et j'analyse l'international, puisque l'immigration... Comment parler de l'immigration si on ne se place pas quelque part au niveau international ? Mais alors, ceux qui me reprochent de prendre l'État national, disons l'État-nation comme cadre, moi, je leur dirais pourquoi vous parlez en français ? Pourquoi vous utilisez la langue française ? C'est aussi un biais national, la langue. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des confusions entre différents niveaux d'analyse. Un niveau politique, où on a le droit de se dire internationaliste ou ce qu'on voudra, et puis un niveau scientifique, où on est toujours obligé de définir un objet. Il y a des gens qui font des thèses sur, je ne sais pas moi, telle ou telle région, telle ou telle ville, telle ou telle... C'est un cadre monographique. On peut prendre la nation, l'État national, comme un cadre monographique, c'est ce que j'ai fait, ce qui n'empêche pas d'intégrer la dimension internationale, puisque je montre dans mes travaux, notamment dans le chapitre sur ce que j'appelle la nationalisation de la société française à la fin du 19e, qu'elle se fait en même temps que l'internationalisation. Le national se définit par rapport à l'international. Donc tout ça, ça me paraît un petit peu... j'ai cessé de répondre à ça, parce que ça me paraît pas sérieux du point de vue de l'argumentation. Alors après... qu'il y ait des collègues qui, eux, d'emblée, prennent un cadre mondial, comme Patrick Boucheron l'a fait dans son Histoire mondiale de la France, c'est un autre point de vue, moi je le trouve légitime. Je ne vais pas aller polémiquer sur savoir quel est le point de vue le plus légitime. Il faut de la diversité. Et on n'observe pas la même chose. C'est aussi ça. Vous comprenez ? Selon comment vous braquez votre projecteur, vous observez certaines choses et d'autres, vous les voyez pas. Donc, une histoire mondiale, par exemple, si je prends cet ouvrage-là, qui est très intéressant, ben, il va observer l'histoire de France depuis l'extérieur. Bon, donc, ça apporte des choses, mais il y a beaucoup de choses qui restent du coup invisibles, notamment le rôle des classes populaires, qu'on ne trouve pas vraiment dans cet ouvrage-là. C'est aussi, moi, la volonté, étant donné aussi... On se situe toujours par rapport à ce qui existe dans la littérature. Donc, je me disais, là, il y a un manque béant. Et si nous, chercheurs sérieux, nous n'occupons pas cet espace, c'est des charlatans qui vont l'occuper. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a aussi cette dimension-là de maintenir sur ces questions nationales une réflexion sérieuse, scientifique. Et je me situe dans le prolongement de toute une série de chercheurs éminents. Durkheim, tout son travail, il vise à comprendre ce que c'est qu'une société nationale. Après, chez les historiens, je parlais de Marc Bloch, on pourrait parler de Brodel, on pourrait parler... Enfin, il y a beaucoup d'exemples, donc... Je ne suis pas inquiet de ce côté-là.
Dans cette façon de définir la nation par le relationnel, n'est-ce pas le moment d'évoquer la figure d'Elias également ?
Voilà, c'est l'exemple aussi, effectivement, c'est une sociologie de la question nationale, Norbert Elias. C'est quand moi j'ai commencé j'ai cherché à comprendre, en fait, au départ, donc je suis un historien du monde ouvrier, j'ai commencé par ça, et puis très vite je me suis rendu compte que dans le monde ouvrier, la question de l'immigration était très importante, donc comme ça n'avait jamais étudié, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais dès que vous parlez d'immigration, vous parlez forcément de national. Puisque l'immigré, c'est justement...
S'il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'immigration.
Ben voilà, c'est justement le mot immigration s'impose dans la langue française à la fin du 19e siècle, au moment même où on a le droit de la nationalité, la loi de 1889, on a les frontières, on a donc toute une série de phénomènes dans lesquels on vit encore aujourd'hui, qui ne peuvent pas se comprendre si on ne réfléchit pas à ce que c'est que le fait national par le fait. Et donc j'ai cherché, moi, des références, et c'est là que j'ai rencontré... Parce que ça, on ne le trouvait pas tellement chez Bourdieu, hein, c'est pas Pierre Bourdieu qui m'a beaucoup aidé là-dessus, hein. C'est Norbert Elias, qui lui avait vécu voyez comme quoi le lien avec l'expérience personnelle joue. Il avait été réfugié, il avait été obligé de fuir l'Allemagne nazie, etc. Il était venu en France, on ne lui a pas trouvé de poste. Il a été obligé après d'aller en Angleterre, etc. Donc il y a aussi des expériences vécues. Et lui, donc, de par son expérience, il a compris ce que ça voulait dire, la force du national. Et il parle de la nation... à partir de la fin du 19e siècle, il dit que la nation devient l'unité élémentaire de survie. J'aime bien cette expression-là. Parce qu'effectivement, par exemple, si vous prenez ce que c'est que la nationalité, c'est aussi une loi de protection. Pour le meilleur pour le pire. Moi, je n'ai pas à juger, mais c'est comme ça. Et le protectionnisme qui se met en place à la fin du 19e siècle, notamment sur le marché du travail, c'est aussi une conséquence de cette construction donc, d'une société sur une base nationale. Donc sur ces questions-là, j'ai énormément travaillé en m'inspirant effectivement de Norbert Elias, et qui pour moi est un socio-historien. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur l'histoire de France d'ailleurs, hein, la société de cour, tout ça, c'est des choses formidables, et qui m'a apporté beaucoup au niveau des outils.
Dans l'interprétation de la crise des Gilets jaunes, hein, puisque vous permettez de nombreux allers-retours entre l'histoire et l'actualité au fil de l'ouvrage, et ça fait tout son sel, je me permets également d'en faire,
oui,
de vous questionner pour creuser ce sillon. N'y a-t-il pas, au-delà de la question sociale, justement, une part de friction entre, d'une part, des classes populaires qui restent dans un imaginaire essentiellement national, voire départemental ou régional, et des élites qui ont tendance désormais, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, à avoir fait sécession, à penser dans le cadre d'après et considérer que toute autre façon de voir est périmée.
Je pense qu'il y a effectivement un clivage de ce type-là. Et je lisais récemment une étude qui vient de sortir sur effectivement le fossé qui se creuse, notamment avec le monde ouvrier et les classes moyennes même, les élites. Effectivement, c'est lié à cette différence de sociabilité ou d'intégration dans des réseaux plus ou moins larges, plus ou moins étendus, selon qu'on a la chance de pouvoir partir faire des voyages, enfin comme un peu notre milieu universitaire aujourd'hui, qui est très internationalisé. Hein, quand on écrit dans des revues savantes aujourd'hui, on écrit pour un petit public qui est mondialisé, qui est internationalisé. C'est une des formes de reconnaissance dans le métier. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu écrire cette histoire populaire pour toucher, même à partir de travaux savants, mais pour les traduire dans un langage qui permette de toucher, vous voyez, des publics plus larges. J'ai aussi créé une association d'éducation populaire dans ce sens-là, qui traduit des résultats des recherches dans des pièces de théâtre. Moi, je travaille avec des artistes, hein, parce que je me suis dit, moi, je suis militant pour les droits de l'homme, etc., depuis que je suis étudiant, mais à bout d'un moment, je me suis dit, mais je parle toujours aux mêmes, des gens qui sont déjà convaincus d'avance, mais à quoi ça sert, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de changer et pour toucher des publics, notamment dans les écoles. On travaille beaucoup avec les lycées, etc., pour leur transmettre des connaissances, mais dans des formes qui puissent être différentes.
Dans quelle forme ?
Ben, beaucoup le théâtre. On fait par exemple, en ce moment, je tourne beaucoup, on fait des conférences gesticulées et théâtralisées, on appelle ça. Donc je suis moi-même sur scène, sans trop déroger à mon rôle, parce que je ne suis pas vraiment comédien, mais je suis avec une comédienne. Et puis, donc il y a aussi de la pédagogie, on fait de la vidéo, on montre des choses, on décortique des graphiques.
Ce sont des performances. Ouais.
Oui, c'est des performances. Moi, je conseille ça à mes jeunes collègues. Alors, faites ça, vous verrez, ça vous mettra un peu en cause, parce qu'autrement, le statut, vous êtes d'universitaire, qui a la parole, le savoir, machin, etc. Et tout le monde qui l'écoute et qui applaudit à la fin. J'étais au rendez-vous de l'histoire à Blois hier, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Mais je veux dire, c'est bien, narcissiquement, c'est très très bien. Mais voilà, il faut savoir aussi changer de rôle. Je pense que c'est très utile. Et on apprend beaucoup aussi. Donc oui, pour moi, c'est extrêmement important. Comme je viens moi-même d'un milieu populaire, je suis très sensible à ces questions-là. Il y a aussi le rôle des médias, il ne faut pas l'oublier. Dans la construction d'imaginaire, c'est très important. Il faut aussi lutter pour qu'on puisse avoir une place un peu plus grande dans les grands médias, c'est-à-dire ceux qui touchent les milieux populaires. Et aujourd'hui, c'est assez dramatique.
Pour que les historiens aient une place un peu plus grande, vous voulez dire ?
Oui, c'est ça, les véritables historiens, j'allais dire. Vous voyez, je trouve que là, c'est même... en régression, je trouve, par rapport à ce que j'ai connu. Pour moi, l'histoire, j'ai découverte avec Alain Decaux, vous voyez, la caméra explore le temps, etc. Je trouve qu'il y avait une intelligence de l'histoire, même si ça se faisait avec beaucoup moins d'images, etc., qu'aujourd'hui. Mais au moins, on nous apprenait que la Révolution française avait existé, quoi. C'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui.
Vous pensez qu'on en est là, à ce point-là ?
Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas un grand fanatique de ces émissions, mais je trouve que, y compris sur le service public, parfois, on a tendance à privilégier beaucoup les rois au détriment des classes populaires.
Hein. Ah oui, mais vous ne pensez pas que c'est lié à des nécessités presque d'ordre socio-économique et au positionnement de la France sur le marché mondial ?
Non, c'est... Tout à fait. C'est ce que je dis un petit peu aussi au début, c'est-à-dire que c'est plus... Autrefois, c'était cette historiographie des rois, elle était réactionnaire au sens politique du terme. C'était l'action française, la monarchie, etc. Aujourd'hui, c'est pas tellement ça
qui
prime. Oui,
c'est pas du Jacques Bainville.
Hein. Oui, voilà, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est...
C'est plus les joyaux de la couronne.
Voilà. Et puis, bon, ben voilà, la France, on sait que l'un des secteurs économiques qui est le plus porteur, c'est le tourisme, c'est le patrimoine, donc on valorise ça, et ça crée une vision patrimonialiste, on pourrait dire, de l'histoire, qui, nous, ne nous satisfait pas beaucoup, parce qu'elle crée du mythe, enfin, c'est un peu la vision Euro Disney de l'histoire.
C'est le patrimoine immatériel.
Voilà, c'est ça, voilà. Donc, il faut faire la distinction et faire en sorte que, bien, l'histoire, avec ses outils, qui sont des outils aussi critiques du passé, puisse avoir sa place, parce que c'est quand même une dimension importante. Ça doit rester une dimension importante de l'éducation civique des citoyens. Et si on veut faire reculer les discours identitaires, c'est aussi par une pédagogie de l'histoire en tant que discipline savante.
Puisqu'on en vient au discours identitaire, évidemment, on pense spontanément au discours identitaire qui lie les termes d'identité et de nation. Mais j'ai eu le sentiment, en lisant notamment le dernier chapitre de votre ouvrage, que la situation est encore plus grave, puisque cette question identitaire refleurit maintenant un petit peu partout sous différents aspects. Vous avez évoqué tout à l'heure les tensions entre l'histoire et la mémoire. Pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre vous vous situez face à ces résurgences qu'on appelle tantôt décoloniales ou autres, voilà.
Oui, vous avez aujourd'hui effectivement la scène publique, je dirais, est occupée par ces polémiques incessantes, constantes, tous les jours, sur ces questions-là, avec deux mondes qui s'affrontent, les uns exaltant aussi bien la nation ancestrale, une conception de la laïcité ou les valeurs de la République, enfin toute une série de choses avec lesquelles on peut être d'accord, mais il faut voir à quoi elles servent aussi dans le contexte polémique. Et puis de l'autre côté, des gens qui, eux, avec qui on peut être aussi d'accord sur certains points, qui mettent l'accent sur les discriminations que peuvent souffrir dans certaines minorités, etc., mais qui vont utiliser l'histoire pour nourrir leurs affrontements idéologiques. Et moi, ma position là-dessus, c'est d'essayer de préserver une autonomie de la réflexion savante. Donc de porter mes outils critiques aussi bien, quand ça se pose, hein, aussi bien chez les uns que chez les autres. Ce qui fait que je fais une histoire populaire, mais je ne suis pas forcément très populaire dans ces milieux-là. Voilà. Mais pour moi, c'est aussi cette définition, je ne veux pas dire, et je ne veux pas sombrer dans une forme d'héroïsme de l'intellectuel, mais voilà, la liberté de penser qu'il faut défendre, y compris quand on subit parfois des insultes, hein, elle nécessite d'avoir le courage de s'affronter à ces questions-là, même parfois, y compris chez des gens avec lesquels on pourrait être d'accord sur le plan citoyen ou de l'action. Mais voilà, je pense que même dans l'intérêt des causes qui sont défendues, on a toujours intérêt à la vérité. Voilà, c'est ma philosophie, et donc ça implique parfois d'être capable d'être un peu à contre-courant pour analyser. Je vous disais, la question des porte-paroles, elle est centrale. Moi, je dis toujours, mais qui parle ? Qui parle au nom de tel ou tel groupe, ou telle communauté, ou tel ou tel ? Vous parlez en leur nom, mais est-ce que les gens dont vous parlez sont d'accord avec vous ? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux, etc. Et dès que vous faites ça, vous voyez très bien que c'est beaucoup plus contradictoire que ce que nous disent les gens qui s'expriment tous les jours à la télévision. Hein.
Vous avez dit au service de combat, l'enrôlement de la mémoire ou de l'histoire au service de combat idéologique. Oui. Est-ce que c'est pas même au-delà, au service de penchants d'ordre presque psychologique, hein. C'est-à-dire que le penchant victimaire, moi j'ai l'impression que c'est pas que idéologique. Que,
oui, non mais
il y a une forme de névrose qui s'empare de la société entière dans une spirale de concurrence ou de compétition, mais qui finit par supprimer tout le monde commun.
Oui, c'est parce que, si vous voulez, ce que je montre dans mon tout dernier livre, qui s'appelle « Le venin dans la plume », c'est que cette logique de victimisation, elle est porteuse aussi. C'est-à-dire vous pouvez beaucoup plus facilement mobiliser des gens si, vous voyez, vous développez ce discours. Et les réseaux sociaux ont beaucoup aggravé ça. Parce que c'est le fondement de ces multinationales américaines de Californie. Ils savent que, eh bien, ils font du profit si multiplient les polémiques.
Et les polémiques, ou des groupes d'affinités hermétiques.
Voilà, c'est ça. Et puis l'indignation, la dénonciation, les insultes, tout ça, c'est ce qui fait du buzz, comme on dit. Et les chaînes, nouvelles chaînes télé fonctionnent beaucoup avec ça. Donc les gens s'inscrivent là-dessus et s'identifient facilement. Et chacun peut se trouver une victime quelque part. Voilà. Donc on a cette logique-là, oui, qui est évidemment, je dirais, complètement contradictoire avec celle de la recherche, puisque la recherche, on n'est pas là pour, on est là pour analyser les choses. On n'accuse personne, on défend personne. Donc après, la traduction politique, pour ce que vous disiez, est-ce que ça c'est nécessaire ou pas sur le plan politique, moi je ne me prononce pas là-dessus. Après, c'est une affaire de citoyen, de voir si ça favorise ou pas le vivre ensemble, etc. C'est d'autres sujets. Mais en tout cas, moi, je dirais que d'un point de vue de la recherche et du point de vue de ce qui m'importe moi, c'est-à-dire avoir la possibilité de transmettre des connaissances que j'ai fabriquées qu'avec d'autres sur l'histoire, eh bien, on voit bien que ces logiques identitaires, c'est des obstacles. Et donc, pour moi, il y a des effets civiques négatifs.
Alors, partageons justement le fruit de vos recherches. Je voudrais que vous évoquiez le chapitre consacré à Napoléon III et aux usines à la campagne, car il éclaire singulièrement quand même la situation présente. Et je suis certain que moi, j'ai appris beaucoup de choses, et je suis certain que pour beaucoup d'auditeurs, ce sera une découverte aussi de comprendre la raison pour laquelle, c'est une sorte de mystère, le monde paysan soutenait Napoléon III, ce qui est un peu contre-intuitif de prime abord.
Oui, c'est une des choses importantes du livre, parce que pour moi, moi j'avais travaillé beaucoup au départ dans ma carrière sur les ouvriers, mais faut voir que quand on s'intéresse aux classes populaires, c'est indispensable de s'intéresser beaucoup au monde paysan, puisque surtout en France, puisque je rappelle quand même qu'il y avait encore plus de paysans en France actifs dans la population active en 1950 qu'en Angleterre en 1840. La France est un pays qui est resté paysan beaucoup plus longtemps que les autres nations industrielles. Et pourquoi ? Eh bien, c'est une des conséquences de plusieurs phénomènes historiques. Déjà la Révolution française, la vente des biens nationaux, où une petite partie, pas tout, hein, mais une petite partie a quand même été récupérée par les paysans, qui ont agrandi leurs lopins, etc., enfin, qui ont résisté de tout leur âme, je dirais, pour rester sur leur terre, bien qu'ils étaient, des paysans pauvres, parcellaires, qui n'étaient pas riches. Et donc après, il y a eu la Révolution de 48, etc. Bon, Napoléon III a été au pouvoir, il avait besoin d'une base sociale, ça ne pouvait pas être le monde ouvrier, puisqu'il avait réprimé toutes les organisations ouvrières, etc. Et donc il s'est tourné vers le monde paysan, qui était... c'est une conséquence du suffrage universel masculin aussi de 48, puisque finalement, les paysans sont devenus incontournables, puisque c'était la catégorie d'électeurs la plus nombreuse. C'est eux qui faisaient, défaisaient les majorités. Donc à partir de ce moment-là, on découvre, parce qu'avant, il faut voir le racisme anti-paysan, j'en donne quelques exemples, y compris chez Jules Ferry, hein, quand on voit les textes de Jules Ferry.
Oui, c'est assez sidérant.
Assez sidérant, je veux dire, c'est une race qui n'est pas civilisée hein, pour
oui,
les élites.
C'est le terme de race.
De race, c'est le mot race. J'insiste aussi beaucoup là-dessus, le mot race est longtemps appliqué comme un équivalent de classe. Hein, donc les civilisés, je dirais, pour les élites, et même pour les élites de la gauche de l'époque, qui étaient républicaines, c'était ceux qui avaient accès à la culture écrite, régulièrement.
Oui, mais aujourd'hui, ouais. Lorsqu'on entend Hillary Clinton parler des déplorables, oui. En parlant des rednecks américains,
oui.
On retrouve un petit parfum de mépris de classe.
Voilà.
Avec une petite coloration ils sont d'une sorte différente, une essentialisation.
Voilà. Et ça, c'est vrai que ça peut fonctionner, y compris de multiples manières. Et donc, à cette époque-là, on voit des gens, les républicains, la gauche républicaine, disons, qui est très progressiste sur un certain nombre de points, mais qui, d'un autre côté, a une vision complètement rétrograde. Et ça va rejaillir après sur le monde colonial. Hein. Faut voir aussi que chez Jules Ferry, Et donc, là, on a Napoléon III, lui, qui est entouré de gens comme Frédéric Le Play. Moi, j'ai pas mal travaillé sur Le Play. qui a été présenté longtemps comme un fief réactionnaire, etc. Mais c'est quand même le catholicisme social, c'est quand même une vision qui est proche, qui connaît le monde d'en bas, hein, le plaid, le monde paysan, etc. Et qui, donc, par certaines analyses, n'est pas si éloigné de Marx que ça, quand il fait son analyse du salaire comme une forme de domination, quand il plaide pour des relations directes, comme une responsabilité du patronat. C'est pas le paternalisme, c'est le patronage, c'est différent. Et donc, eh bien, oui, le chef d'entreprise, le patron, il a une responsabilité, il doit être sur place et il est sous le regard de ses ouvriers, etc. Enfin, il y a toute cette dialectique-là qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait pu dire à un certain moment. Et donc, Napoléon III, aiguillé par Le Play, va développer une stratégie qui va le faire, qui va être très populaire. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, hein, il va avoir une forte audience, je dirais, dans les milieux paysans, sur la base aussi d'intérêts bien compris. Il faut voir qu'il n'y a pas que l'idéologie. Il y a le fait que Napoléon III développe, on voit le décollage de la révolution industrielle, on dirait, on peut dire aujourd'hui, sous le Second Empire, sans prolétariser, c'est-à-dire sans déracinement des paysans. Alors que la logique, tel que Marx même l'a décrit pour l'Angleterre, c'est des paysans qui sont virés, qui sont prolétarisés, qui sont obligés d'aller dans les villes pour travailler dans les grandes usines. C'est pas comme ça que ça se passe en France. En France, on a un premier capitalisme qui est très dynamique, tout le monde le dit, et qui se fait sans, finalement, déracinement, en jouant sur la pluriactivité. Ouvrier-paysan, ça va être un modèle, et artisan aussi, on a les deux, un modèle qui va être efficace et qui va s'effondrer à la fin du 19e siècle. Avec une deuxième étape, l'industrie lourde, la sidérurgie, la chimie, etc. Mais du coup, comme les paysans avaient résisté, qu'ils étaient restés dans la campagne, problème qui se pose à la fin du 19e, où trouver les ouvriers ? Comment faire pour trouver des prolétaires ? C'est là que l'immigration intervient. Et le fait que la France ait été un des grands pays d'immigration, je rappelle quand même qu'en 1930, la France est le premier pays au monde, devant les États-Unis, pour le taux d'immigration, pour le taux, hein. Évidemment, oui. Pour le taux d'immigration, la France arrive devant les États-Unis. Pourquoi ? Parce que on n'a pas suffisamment de prolétaires. Parce que les paysans ont resté dans la campagne, ils ont une force électorale, et puis ils se greffent là-dessus dans les années 20, l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, évidemment, qui rajoute. Mais donc, vous voyez comme quoi des événements historiques qui peuvent s'être passés longtemps avant peuvent avoir des conséquences, parce que voilà, l'immigration est en gros une conséquence de cette résistance populaire qu'avaient développée sous le Second Empire les paysans, les artisans.
Des conséquences, c'est aussi des résonances, car dans cette crise des Gilets jaunes, on voit également cette volonté de ce lien au lieu. Je vais pas reprendre l'expression de Christophe Gulli, France périphérique, mais enfin, il y a ça, ce sont des gens qui veulent, en quelque sorte, vivre et travailler près de chez eux, et qui ne s'insère pas dans ce modèle surplombant où on dit s'il travaillait là-bas,
voilà.
Oui. On peut penser qu'il y a des persistances même peut-être d'habitudes de vie ou de schémas mentaux qui sont spécifiquement français de ce point de vue.
Voilà, il y a, alors là il faudrait l'étudier plus précisément, mais effectivement il y a le mouvement des Gilets jaunes a réactivé cette dimension de l'ancrage local, de la proximité. Mais dans un contexte aussi, il faut bien dire, de disparition de services publics, d'obligation de prendre sa voiture pour aller travailler, etc. Donc il y a ces réalités-là, mais effectivement, qui sont très importantes et qui restent importantes dans un pays comme la France.
Et de nouvelles disparitions du tissu économique local.
Oui.
D'affaiblissement en tout cas.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, avec une logique qui nous amène finalement à reprendre même la politique de la planification gaulliste, enfin de toute cette idée qu'il fallait faire des méga-entreprises pour pouvoir supporter la concurrence mondiale, etc. Tout ça est remis en question aujourd'hui et le mouvement des Gilets jaunes l'a effectivement éclairé.
Alors le livre se termine sur la période actuelle, mais même aussi sur l'avenir. La conclusion s'intitule donc « De quel avenir Emmanuel Macron a-t-il le nom ?» Oui. Alors, c'est pas le lieu pour aller sonder le cœur et les reins d'Emmanuel Macron, mais restons sur ce mot « avenir ». Quels sont les prochains chapitres, selon vous, de cette histoire populaire de la France?
Oui, la conclusion était liée à ce contexte où on présentait l'élection d'Emmanuel Macron comme un grand tournant historique. Donc moi, j'ai voulu comparer son programme, la façon dont il envisageait l'histoire de France avec ce que j'avais raconté. Et comme je le disais tout à l'heure, donc on voyait bien qu'il y avait une sorte de, comment dirais-je, de marginalisation des classes populaires, et je me demandais donc dans quelle mesure ça pouvait perdurer. Donc on a, d'ailleurs je lui ai fait parvenir mon livre, hein, avec une petite dédicace en lui disant, en espérant que ce livre pourrait l'aider. Hein. Il d'ailleurs m'a répondu très, très gentiment, d'un mot manuscrit, en me disant qu'il le lirait avec attention et qu'il était sûr que... il en tirerait profit. Donc voilà, moi c'est ma conception de la démocratie. Je veux dire, je n'aime pas du tout les anathèmes, etc. Je pense que l'exercice aujourd'hui de la politique, c'est un exercice extrêmement difficile. Mais que nous, notre rôle, c'est aussi parfois de tirer la sonnette d'alarme, y compris au plus haut sommet de l'État. Il n'y a pas de raison. C'est ça la citoyenneté. Et donc je pense qu'effectivement, il y a une logique aujourd'hui dans laquelle on est, qui dépasse largement les personnes, je dirais, qui est cette mondialisation de l'économie. Le fait qu'on ait une disparition quand même des structures sociales qui permettaient de donner, que ce soit les syndicats, regardez l'affaiblissement des syndicats, l'explosion aussi de la gauche aujourd'hui, l'atomisation, tous ces phénomènes-là font que il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire des contrepoids, des contre-pouvoirs. Et moi, je pense qu'on est entré, je le dis dans le dernier chapitre, dans un nouvel âge de la démocratie. J'appelle la démocratie du public, c'est-à-dire c'est plus tellement les partis politiques qui priment, mais les médias, c'est-à-dire les voilà. Et là, donc, là, il y a des thématiques, c'est-à-dire il y a une subordination de l'action politique à la conjoncture de l'actualité. Et donc, faut affronter tout ça et maintenir le cap, et c'est évidemment très difficile, dans un contexte marqué aussi par une crise mondiale. Et maintenant, la question climatique. Je veux dire, c'est que ça, je n'avais pas assez abordé. Je suis en train de refaire une postface là, pour la prochaine édition du livre, parce que c'est aussi une question qui a surgi, notamment suite au mouvement des Gilets jaunes, puisqu'au départ, c'est les taxes contre le carburant. Puis après, ça s'est élargi avec une interrogation sur ces questions du réchauffement climatique.
Vous avez parlé de démocratie du public. C'est un autre thème qui peut servir de fil rouge à l'ensemble du livre. C'est l'opposition entre représentation et participation directe aux affaires publiques, ce qui est d'ailleurs relié à la façon dont vous voyez les classes populaires. Vous les décrivez comme des acteurs.
Voilà. Des acteurs qui n'ont pas voix au chapitre.
Est-ce qu'on ne rentre pas dans un nouvel âge de la participation directe ?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que dans le livre, effectivement, c'est un thème que je privilégie, notamment depuis la Révolution française, parce que ça se pose à ce moment-là, avec une révolution qui finalement aboutit à ce que une conception bourgeoise de la citoyenneté, c'est-à-dire c'est les élites, c'est ceux qui ont le savoir, qui ont la compétence, qui vont dire faites-nous confiance, mettez un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, puis on fait le reste. Donc ça, c'est contesté. Chaque mouvement populaire, depuis la Révolution jusqu'aujourd'hui, a contesté cette logique-là. Et on l'a vu ressurgir avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est effectivement... Alors là encore, hein, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, etc. Mais c'est un constat, c'est les réseaux sociaux qui donnent des possibilités aux gens de s'exprimer directement. Et le mouvement des Gilets jaunes, ça a été aussi lié à cela, c'est-à-dire à la possibilité pour les gens, indépendamment des partis, indépendamment des structures représentatives classiques, de pouvoir communiquer entre eux et de faire des réseaux comme ça qui ont un certain poids. Et du coup, ils en tirent la conclusion qu'ils n'ont plus besoin de représentants. Ce qui, à mon avis, est extrêmement dangereux, parce qu'on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes certaines dérives où il suffit que quelqu'un mette un gilet jaune et il se dit gilet jaune et il peut sortir n'importe quelle horreur. On a vu avec certains propos antisémites, racistes ou tout ce qu'on voudra. Ce n'était pas représentatif de l'ensemble du mouvement. Mais étant donné que vous n'avez plus de représentants, qui va discipliner le mouvement en disant attention, celui-là, il n'est pas conforme à ce qu'on pense. C'est ça la contradiction dans laquelle on entre aujourd'hui. Et là, il y a un contraste par rapport au passé, où à chaque fois, il y avait quand même une structuration du mouvement, l'émergence de leaders. Alors, qu'on puisse renouveler les représentants d'un mouvement, d'accord, mais qu'on pense pouvoir réussir à peser sur la vie politique française sans se donner de représentants, je pense que c'est utopique et que ça ne peut pas déboucher.
Écoutez, je pense que c'est une parfaite illustration du fait que des thématiques anciennes ressurgissent et que pour comprendre notre époque, il faut décidément se plonger dans cette histoire populaire de la France, qui est donc une histoire commune, notre histoire commune, et pas seulement une histoire des classes populaires, comme vous l'avez très bien souligné. Oui. Et c'est pourquoi il faut que chacun s'empare de ce livre sans préjuger de la façon dont on se situe sur l'échelle sociale. Il servira à tout le monde. Puis parfois, on se fait souvent des illusions sur l'endroit où on se trouve dans l'échelle sociale. On se raconte des histoires. Et ce qui compte désormais, c'est d'avoir une histoire commune, de se la réapproprier pour se projeter dans l'avenir, puisque quand on a une mémoire, on a un avenir, et ce livre va certainement servir à cela aussi. Merci beaucoup, Gérard Noirial.
Merci à vous.
Thank you.